Mes frères bien-aimés, dans la vie du Christ, les miracles ne manquent pas. À chaque page des Saintes Écritures se déroulent devant nos yeux des prodiges plus étonnants les uns que les autres. Et chacun d'entre eux possède une, voire plusieurs caractéristiques uniques qui le rendent précieux. Mais avant d'aborder l'aspect singulier de la guérison de ce sourd quasiment muet, je voudrais que nous soyons bien au clair sur une chose importante, à savoir que le sourd muet de l'Évangile, c'est chacun d'entre nous. J'en veux pour preuve que l'Église a retenu cette phrase du Christ, « Ephphata », c'est-à-dire « ouvre-toi », pour la liturgie du baptême. Ainsi, sur chacun d'entre nous, cette parole a été prononcée. Alors certes, la majorité, et peut-être même la totalité de l'assemblée que nous formons, n'est ni sourde, ni muette sur le plan physique, mais reconnaissons-le, sur le plan spirituel, nous le sommes tous grandement. Combien de fois n'avons-nous pas soupiré au fond de notre âme « Ah, si je pouvais voir Dieu !» ou seulement l'entendre. Mes frères, nous sommes donc tous en quelque sorte sourds et muets sur le plan de la foi. Si nous voulons sortir de ces deux torpeurs, eh bien il faut que nous nous laissions faire par le Christ, comme ce fut le cas de l'infirme du jour. Et c'est là que nous arrivons au point tout à fait particulier de la guérison à laquelle nous venons d'assister, la méthode du Christ, qui est aujourd'hui surprenante et qui se décline en deux points. Premièrement, notre maître met le sourd muet à l'écart de la foule. Il n'opère pas son rétablissement au vu et au su de tout le monde, mais dans le secret le plus total. Nous avons là une indication essentielle sur le procédé dont Dieu se sert avec nous. Pour nous guérir de blessures profondes, il a besoin de nous sortir de notre train de vie habituel et du regard envahisseur de notre entourage. Et oui, quand vous voulez soigner un grand malade, il convient de le mettre dans une chambre d'hôpital. S'il reste dans son milieu usuel, les chances d'amélioration sont presque inexistantes. En tout cas, cette pratique divine de l'isolement apparaît clairement dans la vie de saint Ignace de Loyola. Vous savez peut-être qu'il est issu d'une famille de la petite noblesse espagnole et qu'ainsi, dès l'âge de 15 ans, il est devenu page à la cour du roi Ferdinand le Catholique. Mais après 10 années de vie passées auprès du monarque et adonné aux vanités du monde et à l'exercice des armes, comme il l'écrira lui-même plus tard, notre jeune Espagnol doit partir en guerre et rejoint alors l'armée du vice-roi de Navarre. Oh, cela ne lui fait pas peur, il est un vaillant dans l'âme qui ne craint aucun danger. Ainsi, lors du siège de Pamplune, nous sommes le 20 mai 1521 et Ignace est âgé de 30 ans. Alors que toute l'armée et les habitants veulent se rendre, Ignace les exhorte à continuer à se battre jusqu'au sacrifice si besoin. Et il réussit à les convaincre. Malheureusement, sa bravoure ne peut empêcher les boulets de canon de tomber, et l'un d'entre eux brise sa jambe droite. Il est alors ramené en toute urgence à son château natal, mais avec les moyens du bord, porté par 4 de ses camarades à pied. Les 100 kilomètres à parcourir ont dû être interminables. Et par-dessus tout, notre jeune chevalier est frustré comme jamais, lui qui ne rêve que de combats épiques. Passer plusieurs semaines sans rien faire, ce n'est pas son truc. Mais notre bon Dieu a une idée derrière la tête. Arrivé au château, Ignace est immédiatement opéré. Pourtant, rien n'y fait, sa jambe ne peut retrouver son état initial et demeurera pour le restant de sa vie plus courte que l'autre. S'ensuit alors un long temps de convalescence durant lequel, pour passer le temps, il lit les 2 seuls livres qu'il a sous la main, « Une vie de Jésus » et « La légende dorée », laquelle est un condensé de vie de saint. Que le Saint-Esprit fait bien les choses. Dans un premier temps, Ignace est un peu déçu. Il est plutôt du genre à dévorer les célèbres romans chevaleresques de son époque. Mais petit à petit, pris par la lecture, il est littéralement retourné et décide, à la stupéfaction de son entourage, d'adopter une vie d'ermite pour suivre les préceptes de saint François d'Assise. Quoi qu'il en soit de l'avenir de ce pieux désir dans l'existence du futur fondateur des Jésuites, ce que nous ne devons jamais oublier, c'est que notre Père du ciel, pour tirer saint Ignace de son aveuglement, a dû le mettre à l'écart, dans la solitude de sa chambre. La solution a été un peu radicale, je vous l'accorde, mais il a fallu en arriver là, car auparavant, notre cher Espagnol ne voulait rien entendre. En ce qui nous concerne, mes frères, j'espère que la Providence ne devra pas en aller jusque-là. Et pour cela, une seule possibilité s'offre à nous. Consacrer à la Providence des petits temps de solitude au cours de nos journées, et quelquefois aussi, si nous le pouvons, plusieurs jours dans un monastère. Ainsi, elle pourra soigner petit à petit notre surdité et notre mutisme, sans avoir à mettre en œuvre une grande quarantaine, comme ce fut le cas pour saint Ignace. Pour autant, je ne vous incite pas à passer de retraite en retraite, loin de moi cette pensée. Mais si nous ne laissons pas le docteur céleste agir sur nous à petite dose, un jour ou l'autre, il faudra qu'il emploie les grands moyens. Aussi, laissons-lui un peu de place dans notre existence quotidienne. Et pour cela, ne remplissons pas à tout prix nos agendas afin d'en combler les vides. Ne fuyons pas le silence et l'inactivité où le médecin du ciel nous attend. Le deuxième point remarquable de la méthode du Christ, c'est qu'il met les mains dans le cambouis. Regardez donc, il insère ses doigts dans l'oreille du sourd, puis dépose carrément sa salive sur la langue du muet. Pour ma part, je n'aurais pas osé aller si loin. Mais notre Seigneur l'a fait, et s'il l'a fait, c'est qu'il fallait le faire. Quoi qu'il en soit, ce sur quoi nous devons nous arrêter, c'est que Jésus met le doigt là où ça fait mal. Attention, en vous disant cela, je ne veux pas laisser penser qu'il agit comme un barbare, sans prendre des gants. Bien au contraire, c'est un médecin d'une délicatesse indépassable, mais tout de même c'est un médecin. Et il sait bien que pour traiter une blessure, il faut s'attaquer à cette blessure. On pourra tourner en rond pendant une heure, cela ne changera rien. Au final, il faudra y aller et la douleur sera là. Eh bien, en ce qui concerne nos plaies spirituelles, Jésus se doit aussi de les toucher. Il ne peut pas faire autrement. Aussi ne lui en voulons pas s'il nous travaille directement. Ne nous fâchons pas contre lui en lui reprochant sa manière de faire. Car il n'y peut rien si une plaie fait mal quand on la désinfecte ou quand on la cicatrise. Sainte Thérèse de Lisieux n'affirme rien d'autre quand elle écrit dans son journal « Plus d'une fois j'ai entendu ceci. Si vous voulez obtenir quelque chose de moi, il faut me prendre par la douceur. Par la force, vous n'aurez rien. » Moi, poursuit-elle, je sais que nul n'est bon juge dans sa propre cause, et qu'un enfant auquel un médecin fait subir une douloureuse opération ne manquera pas de jeter les hauts cris et de dire que le remède est pire que le mal. Cependant, s'il se trouve guéri peu de jours après, il est tout heureux de pouvoir jouer et courir. Aussi, mes frères, ne nous débattons pas face au traitement divin. Car plus nous lutterons, plus le supplice sera long, n'est-ce pas? D'autant que nous pouvons avoir une totale confiance en Dieu notre Père. Il déteste la souffrance au plus haut point et ne la permet qu'en dernier recours, lorsque rien d'autre n'a marché. S'il pouvait emprunter un autre chemin, il le ferait. C'est encore sainte Thérèse de Lisieux qui nous assure cela. « Je pense, dit-elle, que les petits-enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils dorment que lorsqu'ils sont éveillés. Et je sais que pour faire des opérations, les médecins endorment leurs malades. Donc je sais que Dieu tente au maximum de remédier à nos meurtrissures en employant la seule délicatesse. » Alors, mes frères bien-aimés, si nous voulons que notre surdité et que notre mutisme spirituel ne soient plus que du passé, si nous voulons à la fois entendre Dieu au fond de notre cœur et savoir parler de Dieu à ceux qui nous entourent, remettons-nous en grande assurance dans les mains expertes du bon Dieu. Pour cela, allons le voir de temps en temps, par de petites visites amoureuses journalières, le matin, le soir ou au milieu de nos activités, mais également, si notre vie nous le permet, par des retraites spirituelles un peu plus longues qui prendront l'allure de voyages de noces. Et alors, lorsque nous serons auprès de notre Sauveur, soyons comme devant notre médecin généraliste. Ne soyons pas muets quand il s'agit de lui confier en toute franchise ce qui ne va pas dans notre vie. Et ne soyons pas sourds quand il s'agit d'écouter l'ordonnance à mettre en pratique. Saint Angèle de Foligno résume tout cela de la sorte: le salut exige de l'homme ce que le médecin exige du malade. Il faut avouer son mal et exécuter l'ordonnance. Mais il n'y a pas de dépense à faire pour le traitement. Il n'y a qu'à se montrer au médecin, faire les choses prescrites et se garder des choses défendues. Frère bien-aimé, si nous nous conduisons de la sorte, le Seigneur pourra réaliser des merveilles à travers nos êtres, comme il l'a fait à travers du sourd-muet de l'Évangile. Amen.